Voici une question dont la réponse se trouve uniquement dans la Bible. Est-ce que la science pourra un jour sauver l'humanité? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Voici des questions qui vont réellement intéresser ceux qui veulent en savoir davantage concernant la fin des temps. Est-ce que toutes les choses matérielles disparaîtront un jour? Existe-t-il réellement des faux Christ? Est-ce que la science pourra sauver l'humanité? Est-ce que tout ce que la parole de Dieu dit s'accomplira? Devons-nous attendre le retour de Jésus avec crainte et tremblement ou avec anticipation et espoir? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a toutes les réponses pour nous. Il les a trouvés dans la parole de Dieu, dans ce livre merveilleux qui nous enseigne chaque jour tout ce dont on a besoin pour avoir une vie heureuse sur cette terre, et même pour avoir l'assurance de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Demandons au Seigneur de parler à nos cœurs. Prions. Ô mon Dieu, on est dans un temps dans le monde où on a besoin d'en connaître davantage sur ce que toi tu veux nous dire sur la fin des temps. Enseigne-nous et aide-nous à retenir ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, dans ce 13e chapitre de l'Évangile selon Marc, vous remarquerez qu'on ne rapporte pas de miracles, mais il y a tout de même beaucoup d'actions. Dans ce chapitre, c'est de l'action future que nous examinons. Nous parlons d'événements qui se produiront à la fin des temps. Ce chapitre traite des événements catastrophiques qui se passeront pendant la grande tribulation. Le discours du mont des Oliviers, que nous avons dans ce chapitre, se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, mais le récit de Marc est plus concis. Chers amis, débutons notre lecture, Marc chapitre 13, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, « regarde quelle pierre et quelle construction !» Ici, nous avons un exemple où il est facile de ne pas bien saisir le sens du texte biblique. Quelqu'un peut se demander pourquoi les disciples demandent à Jésus d'admirer la construction du temple. Pour répondre à cette question, il faut aller à Matthieu, chapitre 23, verset 38. Jésus avait annoncé la destruction du temple. Ceci étonnait les disciples, vu la grandeur et la gloire du temple et des édifices adjacents. Donc, ils portent l'attention de Jésus sur la construction du temple. Verset 2. Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus leur fait voir le temple du point de vue de Dieu un jour. Le bel édifice sera entièrement détruit. En fait, Jésus leur demande s'ils voient vraiment le temple. Jésus enseigne une grande vérité spirituelle. Au Québec, nous avons des édifices magnifiques. Certains sont des édifices historiques, construits de pierre. D'autres sont des gratte-ciels d'acier et de béton. Nous notons leur élégance, leur force et leur stabilité. Ces édifices seront là pendant très longtemps. En réalité, ces édifices sont temporaires. Un jour, ils seront détruits. L'apôtre Paul a exprimé cette vérité. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Citation de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Un jour, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, admirait la ville qu'il avait fait construire. Il dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel, chapitre 4, verset 30. Les jardins suspendus de Babylone comptaient parmi les merveilles du monde. Cependant, il ne reste de cette ville que des ruines. Il ne reste rien de la gloire de Babylone. Et un jour, nos beaux édifices n'existeront plus. Tout ce qui est matériel disparaîtra un jour. Mon ami, vois-tu ce qui est éternel ? Versets 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Marc est le seul à nommer les disciples qui ont questionné Jésus. L'évangile de Marc est en fait l'évangile de Pierre, car Marc a obtenu ses renseignements de Pierre, dont le nom des quatre disciples. Marc donne deux questions, alors que selon Matthieu, il y en a eu trois. Luc donne une partie de l'explication. Lorsque nous rassemblons tous les détails, nous voyons que Matthieu rapporte les trois questions que les disciples ont demandées à Jésus. La première, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » Ceci réfère à la destruction du temple, et Luc rapporte la réponse de Jésus à cette question. « Quel sera le signe de ton avènement ?» La troisième, « Quel sera le signe de la fin du monde ?» Matthieu 24, verset 3. Matthieu et Marc nous donnent la réponse du Seigneur aux deux dernières questions. Matthieu donne plus de détails que Marc. Mais nous examinerons les points sur lesquels Marc met l'accent. Puisque Marc s'adresse aux Romains, il soulignera les événements dramatiques qui se rapportent à la puissance et à l'action. Poursuivons notre lecture. Marc 13, versets 5 et 6. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi !» et ils séduiront beaucoup de gens. » Nous retrouvons continuellement ce genre d'avertissement au sujet de faux Christ. Certains pensent que ce n'est pas un problème aujourd'hui, mais nous avons beaucoup d'antéchrist dans notre société contemporaine. Par exemple, le Christ des théologiens modernistes est un antéchrist. Leur Christ n'est pas né d'une vierge. Il n'a pas fait de miracle, il n'a pas versé son sang à la croix pour nos péchés, il n'est pas ressuscité, il n'est pas monté au ciel et il ne revient pas de nouveau. Cela n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible a tout fait ce que le Christ des théologiens libéraux ne fait pas. La Bible contient seulement des documents historiques au sujet de Jésus, nous disent ces gens. La Bible affirme que les faits qu'elle rapporte sont essentiels à la foi. Tout autre Jésus que celui de la Bible, comme celui des modernistes, est un antéchrist. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Il y a de nombreux antéchrists, pas seulement l'exemple que je viens de donner. Quiconque affirme être le Christ aujourd'hui, ou quiconque affirme être plus puissant que le Christ, est un antéchrist. Verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tout comme les faux Christ, les guerres caractérisent l'âge dans lequel nous sommes. Les guerres ne devrait pas perturber les croyants, car elles ne sont pas un signe de la fin des temps, pas plus que les antéchrists. Mais je ne parle pas de l'antéchrist de la grande tribulation, même si les autres antéchrists pointent vers lui. Verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. L'homme pense qu'il est civilisé à cause de sa technologie. Il pense qu'il fait de la planète un paradis où vivre. Soudain, il se rend compte qu'il pollue et qu'il est en train de rendre la Terre inhabitable. S'il ne contrôle pas l'explosion démographique, la planète ne pourra plus nourrir sa population. La Bible annonce des troubles et des famines. La Bible, un livre détesté par les hommes, dépeint notre état avec précision. Il y a quelques années, l'humanité croyait que la science résoudrait les problèmes du monde. Parce que le problème du cœur de l'homme n'a pas été résolu, la science a provoqué des problèmes devant lesquels nous sommes impuissants. Le dramaturge Bernard Shaw a dit « La science en laquelle j'ai mis ma foi a échoué, donc vous avez devant vous un athée qui a perdu sa foi. » Quelle tragédie! Ce sont ces choses-là qui caractérisent la fin des temps. Versets 9 et 10. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Christ ne parle pas de l'Église ici. Et l'évangile dont il est question est l'évangile du royaume, qui est aussi un évangile de grâce. Il n'y a pas deux évangiles. L'évangile du royaume est une facette de l'évangile de la grâce. Le salut est toujours une grâce de Dieu, et il est fondé sur le sang de Christ versé à la croix. Cependant, l'évangile du royaume met l'accent sur le message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ainsi que l'Évangile sera annoncé pendant la grande tribulation, car Jésus reviendra bientôt pour y établir son royaume. Verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ce verset ne peut pas justifier les pasteurs et les ouvriers dans l'œuvre qui ne préparent pas leur étude et leur prédication. Il ne peut pas justifier ceux qui ne préparent pas leur leçon de l'école du dimanche. Certains groupes religieux pensent que les pasteurs ne doivent pas préparer leur sermon. Le dimanche, ils enseignent ce qui leur vient à l'esprit. Les résultats obtenus sont proportionnels à l'effort investi dans la prédication. Ce verset s'adresse plutôt aux 144 000 témoins de la nation d'Israël pendant la grande tribulation. Versets 12 et 13. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'antisémitisme, la haine des Juifs, sera répandue partout dans le monde à cette époque. Mais Dieu mettra son sceau sur les siens et ils passeront à travers les grandes épreuves. Verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pendant la première moitié de la grande tribulation de 7 ans, ce sera relativement paisible. Ce sera la paix trompeuse de l'Antéchrist. au milieu de la grande tribulation, l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel apparaîtra. Elle se tiendra là où elle ne doit pas être, soit dans le lieu très saint. Les Romains n'auraient pas compris si Marc leur avait dit que l'abomination de la désolation se tiendrait dans le lieu très saint. C'était plus facile de dire qu'elle se tiendra où elle ne doit pas être. Nous devons comprendre que le lieu très saint fut donné seulement à la nation d'Israël. C'était un endroit précis dans le temple. L'Église n'a pas de lieu très saint. Versets 15 à 23. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Les faux Christ et les faux prophètes feront de véritables miracles par la puissance de Satan. Versets 24 à 26. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Ce ne sont pas des nuages ordinaires, mais une nuée semblable à celle qui guidait Israël dans le désert lors de la sortie d'Égypte. Cette nuée est un signe de la gloire du Fils de l'homme dans le ciel. Verset 27. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ceci n'est pas l'enlèvement de l'Église, mais un événement qui se passe après la tribulation. À l'enlèvement de l'Église, les croyants s'élèvent dans le ciel et vont vers Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà la promesse faite à l'Église. Alors qu'ici, des anges les rassemblent. Ici, Christ revient dans toute sa gloire pour exercer un jugement. Versets 28 et 29. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Je pense que ce figuier représente la nation d'Israël, même si plusieurs ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Nous pouvons prendre le pouls du plan de Dieu en regardant ce qui se passe dans le pays d'Israël jour après jour. Ce sont les événements qui se dérouleront avec la nation d'Israël qui nous indiqueront que le retour du Seigneur est proche. Versets 30 et suivants. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Contrairement à la science qui a déçu les attentes de bien du monde, la parole de Dieu ne nous décevra pas. Tout ce que dit la parole s'accomplira. Voilà le roc sur lequel il faut construire notre maison ou placer notre foi, sur le fondement solide, inébranlable, qu'est la personne de Christ, annoncée et proclamée par les prophètes et les évangélistes. En prenant un corps, Christ s'est limité. Ainsi, il était possible qu'il ne sache pas le jour et l'heure de son retour. Seul le Père pouvait le lui dire, mais il ne l'a pas fait. De même, Christ n'était plus omniprésent. Lazare est mort avant que Jésus arrive, et Marthe lui a dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » À cause qu'il a pris un corps, Jésus a limité certains de ses attributs. Versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je le dis à tous, veillez. Cette parabole termine le discours du mont des Oliviers. Jésus applique cette parabole à son deuxième retour. Le peuple de Dieu rendra des comptes au retour de Christ. Donc, en plus d'accomplir notre mission, il faut veiller et prier, et lorsqu'il reviendra, être trouvé fidèle. Cependant, cette parabole s'applique à chacun d'entre nous. Il y a deux façons dont nous pouvons veiller. Nous pouvons veiller avec crainte et tremblement, car nous attendons un ennemi ou un juge qui nous condamnera. C'est ainsi que devraient veiller les non-croyants. Nous pouvons veiller avec anticipation et espoir, comme si nous attendions un ami très cher ou un événement des plus heureux. Est-ce avec une telle attitude que vous attendez le retour de Christ? De quel côté seras-tu? Celui de la délivrance ou de la condamnation? Prochaine émission, Marc 14.
Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui que tout ce que l'homme construit sur cette terre est temporaire. On a parlé de gratte-ciel en acier, en béton, et on a vu qu'un jour, ils seront tous détruits. On en a eu tout un exemple le 11 septembre 2001. À New York. Régent nous a enseigné aussi de nous méfier des faux Christ. Il a dit que quiconque affirme être plus puissant que le Christ est un antéchrist. Il y a donc plusieurs antéchrists sur la terre. On a aussi appris que la science ne pourra pas sauver l'humanité, et même que la technologie qui croit nous offrir une planète où il fait bon vivre est en train, au contraire, de polluer cette terre et de la rendre inhabitable. Aux nouvelles, On peut voir l'accomplissement de ceci de nos jours, hein, le virus du Nil, le SRAS et plein d'autres maladies et de catastrophes nouvelles qu'on annonce quotidiennement. Non, la terre ne sera pas là éternellement. Mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Tout ce qu'elle dit s'accomplit ou s'accomplira certainement. Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 14, on peut voir que la parole, c'est Jésus. Puisqu'il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mon ami, est-ce que la parole habite en toi? Est-ce que Jésus habite en toi? C'est lui qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre la porte de ton cœur et laisse Jésus entrer. Tu pourras être certain que quand il viendra chercher son Église, tu vas être une des pierres vivantes qui font partie de cette Église qu'il appelle son épouse. Et tu seras avec Jésus pour l'éternité. Pour être certain d'être avec Dieu pour l'éternité, tu n'as qu'à te reconnaître coupable devant lui, d'avoir péché. Tu n'as qu'à te repentir, c'est-à-dire te détourner de ta vie de péché en mettant toute ta confiance en Jésus seul pour en avoir la capacité et pour recevoir le beau cadeau qu'il t'offre en ce moment. Et ce cadeau, c'est la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Reçois ce beau cadeau. Il n'y a pas de plus beau cadeau que quelqu'un puisse t'offrir. Quelqu'un peut t'offrir quelque chose qui vaut très cher, une Rolls-Royce, une maison. Mais toutes ces choses vont disparaître un jour. Il y a juste la parole de Dieu qui demeure éternellement. Comme on a vu tantôt, la parole, c'est Jésus. Ce Jésus éternel qui veut te rendre éternel avec lui. Qui veut que tu entres dans sa présence, que tu sois heureux en lui. Que tu sois heureux même dans tes épreuves ici-bas, en sachant que tu as l'espérance qu'un jour, assurément, tu vas être avec lui pour l'éternité. Qu'il te prépare une place dans son royaume, une place de choix. Et en plus, si tu le reçois comme ton sauveur, il va te donner son Esprit Saint. Son Esprit va habiter en toi. Alors tu vas avoir Dieu en toi. Pourrais-tu être plus près de Dieu que ça? Alors si tu veux être près de lui, reçois-le. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.